Et il est 14h10 à Paris, 12h10 temps universel. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Chantal, bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire, aujourd'hui, la tournée latino-américaine de Benjamin Netanyahou, c'est une première pour un chef du gouvernement israélien. Argentine, Colombie, Mexique, Benjamin Netanyahou cherche à développer ses relations diplomatiques et commerciales sur le continent. C'est ce que nous expliquera dans quelques secondes notre invitée, la spécialiste du Moyen-Orient, Elisabeth Marteux. Irma, toujours très présente dans les pages de la presse américaine, elle est rétrogradée en simple dépression tropicale, mais des millions de personnes sont toujours privées d'électricité en Floride. Et puis dans sa revue de presse, Achim Leopold reviendra aussi sur la date des élections régionales au Venezuela et sur le maintien de l'immunité du président guatémaltèque. La demande du parquet et d'une mission de l'ONU contre la corruption a donc été rejetée. Comme tous les mardis, l'actualité en Haïti, ce sera avec Godson Pierre. Actualité dominée par un mouvement de contestation contre le budget approuvé par le Parlement. Ils étaient quelques milliers à manifester hier. La mobilisation doit continuer aujourd'hui. À suivre également, le journal d'Outre-mer Première, dominé par l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans les Antilles. Visite pour constater les dégâts laissés par Irma. Je vous le disais à l'instant, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est en visite en ce moment en Argentine, avant de se rendre brièvement en Colombie puis au Mexique. C'est la première tournée latino-américaine d'un chef de gouvernement israélien en fonction. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Elisabeth Marteux, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut international d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Hier, Benjamin Netanyahou a rencontré des représentants de la communauté juive. Il a aussi participé à un hommage aux victimes des attentats contre l'ambassade israélienne à Buenos Aires et contre l'association mutuelle israélite argentine en 1992 et 1994. Elisabeth Marteux, avec 300 000 juifs, l'Argentine accueille la plus grande communauté juive du sous-continent, mais cette visite a aussi et surtout un intérêt stratégique et diplomatique.
Oui, alors effectivement, la visite en Amérique latine a un intérêt stratégique et politique. Stratégique d'abord, économique et commercial, parce que c'est une, le Premier ministre le dit lui-même, l'Amérique latine représente un énorme marché, donc ça permettrait d'augmenter les investissements et les échanges commerciaux entre Israël et cette zone. Mais ça a également une visée politique pour se rapprocher de pays qui seraient susceptibles d'abord de voter en sa faveur dans les forums internationaux et notamment aux Nations Unies. Il faut aussi replacer cette visite dans le contexte plus large de l'ouverture de la 72e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc la semaine prochaine, Benjamin Netanyahou sera à New York. Donc ça permet d'obtenir aussi davantage de votes en faveur de la question israélienne à l'ONU, mais aussi se rapprocher de pays qui peuvent entendre les inquiétudes israéliennes vis-à-vis de l'Iran et soutenir d'éventuelles mesures internationales.
Et d'ailleurs, il ne se rend...
C'est notamment le cas en Argentine.
Et d'ailleurs, il ne se rendra pas au Brésil, par exemple, où il y a pourtant une importante communauté juive.
Oui, alors effectivement, il ne se rendra pas au Brésil parce qu'il y a eu un souci diplomatique entre les deux pays. Buenos Aires a refusé que Dani Dayan, donc un des leaders du mouvement des colons, ne soit nommé comme ambassadeur d'Israël à Brasilia en 2016. Et l'an dernier, le Brésil a également inauguré à la même période une grande ambassade palestinienne à Brasilia. Alors, le Premier ministre israélien affirme que c'est officiellement en raison de l'instabilité politique dans le pays, ce qui est vrai, mais c'est aussi en raison d'irritants politiques sur la question palestinienne entre les deux pays.
Et le fait que cette visite intervienne maintenant, cela montre la volonté de Benjamin Netanyahou d'élargir donc ses relations, les relations d'Israël. Est-ce que c'est aussi le fait d'un réchauffement des relations avec certains de ces pays, d'un changement politique sur le continent ?
Alors oui, c'est le fait notamment avec l'Argentine. C'est vrai que les relations entre Israël et l'Argentine se sont considérablement améliorées depuis que Mauricio Macri a été élu président en 2015. Mais c'est aussi une stratégie globale des Israéliens qu'ils ont conduit en Afrique, qu'ils ont conduit en Asie, qu'ils conduisent aujourd'hui en Amérique latine, de trouver davantage de soutien, d'ouvrir des marchés. Donc il y a un intérêt cumulé à la fois commercial et politique de trouver davantage de soutien dans le monde. Donc l'Amérique latine fait partie de cette stratégie globale en fait israélienne.
Et sur le plan économique, qu'est-ce qui va être spécialement développé ? C'est surtout les technologies, c'est ça ?
Oui, et c'est effectivement les technologies. Donc Benjamin Netanyahou est accompagné d'entrepreneurs, d'une délégation d'entrepreneurs israéliens dans différents domaines, que sont l'agriculture, l'eau, les communications, l'énergie. Donc c'est essentiellement dans la question des technologies de l'agriculture. Il y a notamment un accord qui sera signé entre l'Agence de coopération israélienne, le Machav, et le Mexique. Au Mexique, il y a par exemple des contrats qui vont être signés aussi dans le secteur de l'aviation et des communications. Avec la Colombie, ce sera dans les domaines des sciences, du tourisme. Il va également y avoir un accord entre la compagnie aérienne israélienne El Al et la compagnie nationale argentine pour des vols donc entre l'Argentine et Tel Aviv. Et puis, il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire qu'on sait qu'Israël est un acteur majeur dans l'industrie de défense et de sécurité, avec notamment 550 millions de dollars d'exportation en Amérique latine en 2016. Donc ça fait aussi partie des projets d'Israël que d'étendre son industrie de défense et de trouver de nouveaux marchés.
Et une dernière question peut-être, l'Iran, ennemi juré d'Israël, a de son côté fait beaucoup ces dernières années pour se rapprocher de l'Amérique latine, surtout sous l'ère Ahmadinejad. Est-ce qu'il y a en effet de concurrence qui joue également dans cette visite ?
Oui, indéniablement, il y a une concurrence. Alors, comme on le voit, les visites d'Ahmadinejad et puis plus récemment de Zarif, donc le ministre des Affaires étrangères en Iran, n'a pas eu lieu dans les mêmes pays. Donc, il y a une réelle concurrence. Zarif, l'an dernier, en 2016, s'était rendu à Cuba, Venezuela, Nicaragua, Équateur, Bolivie, Chili, alors qu'aujourd'hui, Israël se dirige plutôt vers l'Argentine, la Colombie et le Mexique. Donc, il y a une réelle concurrence. Le Premier ministre israélien l'a dit aujourd'hui en Argentine, dans la commémoration des attentats contre les Israéliens et les représentants juifs en Argentine, que l'Iran et le Hezbollah étaient derrière les attaques qui avait été perpétré dans ce pays. Donc effectivement, l'Iran reste en ligne de mire, non seulement pour l'influence en Amérique latine, mais là encore, c'est une approche globale, mais également pour ce qui pourrait en sortir aux Nations Unies, dans les votes Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'Iran.
Merci Elisabeth Marteux. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut international d'études stratégiques. Arim Lipold m'a rejoint en studio pour la revue de presse des Amériques. Arim, bonjour.
Bonjour Pauline.
On prend tout de suite la direction de la Floride aux États-Unis, où des millions de personnes sont privées d'électricité après le passage d'Irma.
Oui, les habitants de Floride qui découvrent petit à petit les dégâts laissés par Irma. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le Washington Post. Des maisons coupées en deux comme un melon, des bateaux renversés qui se retrouvent au milieu d'une route, sont palés des arbres, centenaires tombés sur des lignes électriques. Un tiers de la population est sans électricité, constate le Washington Post. Le journal estime toutefois que l'impact de l'ouragan aurait pu être bien pire. Et du coup, le New York Times, de son côté, se pose la question. Les experts ont-ils surestimé le danger ? Et la réponse est catégorique, absolument pas. Car si Irma avait dévié sa trajectoire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, bien les dégâts auraient été autrement beaucoup plus importants, estime le New York Times.
Le journal publie aussi un long article sur le défi de la reconstruction auquel doivent faire face les Antilles désormais.
Oui, les conséquences sont dramatiques pour l'industrie du tourisme, raconte un habitant de Saint-Barthélemy au reporter du New York Times. Plus de 2 millions de personnes dans cet archipel travaillent pour ce secteur et d'après une responsable du tourisme sur l'île française, la reconstruction prendra des années. Autre île touchée, Cuba, où le gouvernement a annoncé un ambitieux plan de reconstruction avant le début de la saison touristique en novembre prochain. Mais le problème, estime le New York Times, c'est que Cuba dépend largement de l'aide de son allié, le Venezuela, qui traverse actuellement une grave crise économique et politique.
Et le Venezuela, justement, Arim, on connaît désormais les dates des élections régionales.
Ah oui, ce sera le 15 octobre, a annoncé le Conseil national électoral, le CNE. C'est à la une de plusieurs journaux, comme celui de Ultimas Noticias, proche du gouvernement. La campagne pour l'élection des gouverneurs des 23 États du pays commencera le 23 septembre prochain et se terminera le 12 octobre, a précisé le CNE dans un communiqué.
À direction le Guatemala, où le Parlement a refusé hier lundi de lever l'immunité du président Jimmy Morales. Il est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne en 2015.
Ah oui, 104 députés sur 158 ont voté contre l'avis d'une commission parlementaire qui avait recommandé la levée de l'immunité. Le Congrès a sauvé Jimmy Morales, titre le journal Prensa Libre. Jusqu'à la dernière minute, des marchandages ont eu lieu pour éviter une défaite au président. Mais ce résultat ne veut pas dire que Morales puisse crier victoire. Le Congrès a pour l'instant justement évité la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, écrit le journal. L'image du président est sérieusement écornée, poursuit Prensa Libre. On a l'impression que la lutte contre la corruption régresse. En tout cas, la situation situation au Guatemala est tendue et les mois à venir s'annoncent cruciaux, selon Elvin Diaz, avocat et analyste de la situation politique.
Selon moi, la situation est plutôt compliquée parce qu'il s'agit d'un président très fragilisé qui manque de leadership. C'est un président qui doit gouverner encore 2 ans, mais qui est très contesté dans une conjoncture très particulière pour le pays, la lutte contre la corruption. Un moment historique pour la nation qui implique une refonte de la classe politique. Il va falloir attendre de voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la manière dont il va diriger le pays parce qu'il est très fragilisé aujourd'hui. La seule chose qui le protège est le pacte d'impunité, un pacte de corruption entre le président et les députés. Les députés qui sont également pointés du doigt pour des faits de corruption. Du coup, selon moi, tout va finir par réveiller l'indignation des citoyens.
Analyse d'Elvin Diaz recueillie par Lucia Valentine. Notre revue de presse s'arrête aussi au Mexique. Le bilan humain du séisme qui a frappé une partie du pays jeudi dernier s'est alourdi. On compte à présent 96 morts, dont la plupart dans l'état de Oaxaca, le plus touché par le tremblement de terre.
Oui, les autorités sont mobilisées. L'armée est en train de venir en aide aux sinistrés des états de Chiapas et de Oaxaca et leur fournit des produits de première nécessité, c'est-à-dire dans El Universal, journal mexicain. Le président mexicain Enrique Peña Nieto, de son côté, a appelé les entrepreneurs à faire preuve d'esprit de solidarité. Les entreprises du bâtiment devraient participer à l'effort de reconstruction, selon El Universal, qui cite le président. Personne n'a ajouté Enrique Peña Nieto ne doit tirer profit de cette tragédie, un avertissement qui vaut également pour la classe politique, estime le journal mexicain.
Et en attendant l'acheminement de l'aide, certains, comme le gouverneur de l'État de l'Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, tentent de consoler les sinistrés.
Oui, c'est-à-dire dans le journal Milet, vous n'êtes pas seul, nous sommes une famille, a déclaré le gouverneur qui annonçait dans la foulée des mesures pour évaluer les besoins de la population affectée. Les autorités locales ont réquisitionné des hôtels pour y abriter des habitants de la région qui ont perdu leur maison suite au tremblement de terre.
C'était la revue de presse d'Arim Lipold, merci.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
À Port-au-Prince, il est 8h22, l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Godson Pierre du site d'information Alter Press. Avec à la une, le nouveau budget haïtien, il n'en finit pas de susciter des contestations.
C'est encore la grogne contre ce budget de 144 milliards de gourdes, soit quelque 2 milliards d'euros, approuvé par le Parlement qui l'a transmis à l'exécutif pour promulgation. À l'appel de diverses organisations, des milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour rejeter le budget qui, déclare-t-elle, ne tient pas compte des revendications sociales. Tout comme plusieurs entités de la société civile, ces organisations accusent le pouvoir en place de vouloir octroyer tous les avantages aux classes aisées au détriment des classes laborieuses. Malgré les justifications que tente de faire valoir le bureau de communication de la présidence, un ensemble de dispositions prévues est jugé contraire aux intérêts publics et les répartitions de fonds sont considérées inappropriées et disproportionnées. La manifestation d'hier a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police, qui a procédé à au moins 4 arrestations, selon ce que rapporte un de nos reporters. Mais une nouvelle manifestation est encore prévue aujourd'hui.
Un arrêt de travail est aussi annoncé dans les tribunaux et le budget est là encore à l'origine du malaise.
Les activités judiciaires devraient cesser à partir de demain et ceci pour plus d'une semaine à l'appel de l'Association professionnelle des magistrats. Les juges se disent consternés et révoltés par le comportement des parlementaires qui, selon eux, n'ont fait aucun cas des campagnes de sensibilisation, des correspondances et appels du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ainsi que des associations de magistrats en faveur d'une allocation plus conséquente. Seulement 1,12 milliard de gourdes, soit 0,8% du budget, est alloué au pouvoir judiciaire. Pourtant, soulignent les juges, il faudrait, entre autres, construire des bâtiments adéquats, réhabiliter des bâtiments en mauvais état pour loger les tribunaux et les cours et fournir une couverture d'assurance maladie fonctionnelle accompagnée de primes de risque aux magistrats.
L'actualité en Haïti, c'est aussi les suites du passage d'Irma. L'ouragan est passé au large des côtes la semaine dernière et les paysans, comme Sonne-Pierre, lancent un appel à l'aide.
Même si le bilan du passage du cyclone reste limité en termes de dégâts matériels, des associations paysannes du Nord font part de lourdes pertes agricoles et appellent à l'aide. De nombreux agriculteurs de cette partie du pays ont perdu leurs plantations de pois Congo, d'avocats et de bananes, selon ce qu'indiquent des dirigeants d'associations que nous avons interviewés. Les semences de poireaux, de carottes, de tomates et de betteraves ont été également perdu. Les paysans qui sont en pleine campagne agricole d'hiver ont besoin d'être secourus en urgence, alerte-t-il. Les autorités agricoles avaient prévu que le passage d'Irma allait empirer la situation dans le nord, malgré un impact plutôt réduit. Suite au passage d'Irma, un dernier bilan de la protection civile fait état d'un mort, un disparu et 17 blessés.
Irma, on y revient dans un instant dans le journal d'Outre-mer Première. Merci Godson Pierre, on vous retrouve mardi prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par Tessa Groman, bonjour.
Bonjour Pauline.
Tessa, 6 jours après le passage de l'ouragan Irma, Emmanuel Macron vient d'arriver aux Antilles.
Oui, le président de la République est arrivé il y a environ 2 heures en Guadeloupe. Il s'est longuement entretenu avec le préfet et les élus locaux. Puis il est monté dans son avion direction Saint-Martin. Avant cela, il a pris la parole devant la presse.
Ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe naturelle dont nous ne retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit, profondément, qu'on ne peut comparer avec aucun autre événement météorologique connue dans les dernières décennies. Face à cela, ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Un pont aérien qui a d'ores et déjà coûté 50 millions d'euros, a rajouté le président. Emmanuel Macron est venu accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé. À Saint-Martin, un centre de soins sous tente va être mis en place à Marigot pour soigner les sinistrés de l'ouragan. L'hôpital de Lille, partiellement détruit, a tout de même repris un peu d'activité. On écoute son directeur, Francisco Moreno.
Nos personnels sont formés à travailler dans des situations non seulement d'urgence, mais ce qu'on appelle en mode dégradé. Alors au-delà du problème d'Irma lui-même, du phénomène climatique exceptionnel que connaît Lille, l'établissement dans les conditions actuelles fonctionne avec le personnel suffisant pour faire face à l'ensemble des urgences et accueillir toute la population qui se présente à nos urgences. Bien évidemment, compte tenu de la baisse de la capacité de l'établissement en termes d'hospitalisation, l'essentiel, je dirais, des prises en charge sont effectivement transférées, évacuées sanitairement sur le CHU Guadeloupe.
Propos recueillis depuis la Martinique par Pierre-Yves Honoré. Après Saint-Martin, Emmanuel Macron doit se rendre à Saint-Barthélemy. Là-bas aussi, l'île se reconstruit progressivement. 4 cargos remplis de matériel et de denrées ont déjà fait escale. Les vols économiques ont repris depuis hier. Et puis ce geste qui apporte un peu de grâce dans ce chaos, de la part des boulangers de l'île. Eric Stimfling, l'envoyé spécial sur place de Guadeloupe Première, témoigne.
C'est le signe symbolique, s'il en est. Les boulangeries de Lille ont décidé de reprendre de rallumer leur fournil et de reprendre la fabrication de pain frais depuis ce matin. Un exemple, sur les hauteurs de Colombier, 800 baguettes et 400 viennoiseries ont ainsi été distribuées gratuitement à tous ceux qui passaient devant la boulangerie. Je vous laisse imaginer le sourire, les sourires et les remerciements adressés aux boulangers.
Voilà, et puis dernière information, les cours pour les 8800 élèves de Saint-Martin et Saint-Barthélemy devraient reprendre après les vacances de la Toussaint. Des tentes gonflables et climatisées seront montées dans les deux îles pour remplacer les écoles détruites. Voilà pour les nouvelles d'Outre-mer Première.
Merci Tessa Groman, bonne journée. Et encore une information concernant les États-Unis. Cette fois, la Californie, le Minnesota, le Maryland et le Maine poursuivent l'administration Trump. L'objet du litige, c'est la suppression du programme DACA qui protège quelques centaines de milliers de jeunes sans-papiers. Ces 4 États considèrent que cette décision est anticonstitutionnelle et illégale. Hier, l'ONU s'est aussi inquiétée du sort de ces Dreamers. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Jonathan Brady qui l'a réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François. François Cadet.
Avec les acteurs Céline Salette et Pierre Deladonchamp pour Nos années folles, le nouveau film d'André Téchiné. L'histoire de Paul, un soldat de la guerre de 14 qui se mutile, déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme et la transformation ira bien au-delà.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Tout à l'heure, à partir de 13h10 TU.
RFI.